Hello, j'ai le plaisir de vous partager une bonne nouvelle. Pour le 100e épisode du podcast Action Réservation qui sortira le 17 avril, je vous ai prévu quelques petites surprises qui seront valables uniquement du 17 avril au 30 avril pendant 2 semaines. Et ben pour en savoir plus, il vous suffit simplement de vous abonner à la newsletter. Vous retrouverez le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Et puis vous serez donc informé en temps et en heure sur l'ensemble des offres que je suis en train de vous préparer. Belle écoute à tous et j'espère à très vite pour ce rendez-vous du 100e épisode. Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariat, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo, au format court, ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, je reçois Ludivine du compte Happy Trek sur Instagram et qui est également l'hôte du podcast Nouvelles Impulsions dédié au métier de travel planner. Je ne vous en dis pas plus parce que, une fois n'est pas coutume, j'ai laissé Ludivine se présenter, donc je vous laisse découvrir notre échange et je vous retrouve à la fin de cet épisode, comme d'habitude, pour la conclusion. Belle écoute à tous. Et salut Ludivine, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on se suit sur Instagram. C'est moi qui suis venue te chercher parce que j'ai adoré ce que tu proposais. Donc, tu es la fondatrice du compte Happy Trek. Et j'ai découvert sur ton compte que tu avais aussi lancé une formation pour devenir travel planner et plus spécifiquement dans travel planner en tourisme durable. Donc, tu as voulu aller en plus dans une niche bien plus spécifique. Du coup, contrairement à mes habitudes, où d'habitude c'est moi qui présente mes invités, je vais d'abord te poser la question, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du travel planner, c'est comment en fait tu as atterri dans cet univers ? C'est quoi l'histoire de Ludivine et du tourisme et du métier de travel planner ?
Yes. Bah déjà, merci Yen pour ton invitation dans le podcast. Je suis ravie aussi d'échanger avec toi parce qu'on a plein de points communs. Alors, comment je suis arrivée dans le tourisme ? Eh bien, en fait, tout a commencé en 2016. J'étais à l'époque directrice d'agence commerciale. J'encadrais dans les télécoms, j'encadrais une équipe de commerciaux terrain. Donc, j'aimais bien ce métier de la vente, ce métier de l'accompagnement d'une équipe. Mais par contre, j'avais un peu de problème avec les valeurs de la boîte qui, malheureusement, n'en avait pas trop. Je pensais que les choses allaient changer. Mais quand tu es en entreprise, c'est pas toi salarié qui décide, c'est les hautes instances. Et donc, du coup, rien de changé, j'ai décidé de quitter le job. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce que j'ai fait tout mon parcours en alternance, j'ai un master en stratégie d'entreprise, management, enfin, j'ai fait plein de choses. Et du coup, je me disais, maintenant, en fait, j'avais envie de faire les choses un petit peu par moi-même. Donc, j'ai commencé par créer un blog, mais qui n'a rien à voir avec le voyage, mais une autre de mes passions qui est manger, c'est un blog qui s'appelle La Saison en Cuisine. Et en fait, en lançant ce blog, j'aimais bien partager des recettes de saison, comme son nom l'indique, d'où le fait l'éco-responsabilité me tient beaucoup à cœur. Et du coup, quand je faisais mes recherches de recettes, j'aimais bien dire, dans la ratatouille niçoise, il y a de l'aubergine. L'aubergine, c'est quoi? C'est bien fait? Qu'est-ce qu'elle apporte? Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai découvert sur le fil la naturopathie. Et je me suis dit, ce métier m'intéresserait bien parce qu'il permet d'accompagner des personnes pour aller d'un point A. Je suis en mauvaise santé ou j'ai une alimentation qui ne me convient pas, j'ai des petits problèmes de bien-être, à un point B qui est j'ai résolu ces problèmes. Et en fait, c'est ça qui me plaisait. Du coup, je me suis lancée dans une formation en 2018. En parallèle, je continuais de développer le blog. J'ai aussi créé des événements. Alors, pour influenceurs, à l'époque, c'était le brunch des blogueuses.
Ah, génial.
Ça se déroulait à Nice et à Aix, en Provence. C'était trop cool parce que ça me permettait de passer... du virtuel à la vraie vie. Moi, je suis plus une nana du terrain. Et donc, du coup, j'ai lancé tout ça en même temps que la naturopathie. Et le voyage, tu me diras, quand est-ce que tu en es venue ? Justement, c'est là. En fait, j'avais besoin d'arrondir un petit peu mes fins de mois et je voyageais déjà pas mal à l'époque et de façon un peu différente. Tu vois, j'avais fait du bouffing, je voyageais en couchsurfing, c'est-à-dire sur le... tu connais le site, tu vas dormir un peu chez l'habitant, j'avais fait du bénévolat, voilà, plein de choses comme ça, un terrail, etc. Et du coup, j'avais pas mal de mes copines, et puis des connaissances de mes copines qui me demandaient un peu des conseils sur le voyage. C'est comme ça, en fait, que j'ai mis le pied dans le tourisme, mais en fait, à l'époque, j'y connaissais fichtre rien, je savais pas, en fait, comment réellement développer une activité dans le tourisme, c'était quoi le métier de travel planner, d'ailleurs, à l'époque, on l'appelait pas travel planner. Et en fait, ce qui a fait évoluer le parcours vers ce que je fais, ce que j'ai fait voilà, dans le passé et puis maintenant, c'est justement le lien que j'ai voulu apporter entre la naturopathie et le métier d'organisatrice de voyage.
D'accord.
En fait, je me suis dit, bah tiens, ça serait trop cool de lier les deux. Ma passion du voyage et puis de la outdoor, parce que je passe tous mes week-ends ou presque en pleine nature à faire plein d'activités. Et puis, la naturopathie qui est du coup avec mon envie d'apporter plus de bien-être, de sérénité à mes clients.
Donc, en fait, le bien-être par le voyage, du coup.
Ouais, exactement, en fait. C'est ça, ouais, complètement. Et puis, le voyage qui apporte plus de bien-être aussi. Tu vois, il y avait vraiment les deux côtés. Et donc, j'ai créé des parenthèses. Alors, la première que j'ai créée, c'était un week-end qui s'appelait Détente et Détox. L'idée, en fait, c'était d'avoir... il y avait une sophrologue, il y avait une professeure de yoga, il y avait moi en tant que naturopathe, des petites balades aussi à l'extérieur. Et donc, tu avais des ateliers comme ça qui permettaient de se reconnecter à soi, de passer plus de temps à la nature, de couper des réseaux, etc., pour améliorer son bien-être. Et quelque chose qui soit durable dans le temps, pas juste dans le voyage. Parce que c'est vrai que... la plupart des personnes ont tendance à voyager autour de la destination, voyager, et puis une fois qu'on rentre, on est déprimé.
Les bienfaits, ils sont vite partis, ouais.
Voilà, on n'est plus en voyage, on est chez soi, devant sa télé, c'est horrible.
En une semaine, tu as perdu tous les bénéfices du voyage.
C'est ça. Ouais. En même temps que ton bronzage. Donc c'est voilà. Ça. L'idée, du coup, c'était un peu de rassembler, voilà, de faire du voyage quelque chose de plus transformateur, plus bénéfique, si je puis dire.
Plus profond, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, quand j'ai organisé mon premier week-end, c'était 2018, en fait, j'ai une de mes connaissances, prof de yoga à Cannes, qui me dit « Mais Ludivine, en fait, pour ça, en fait, il faut que le voyage soit commercialisé par une agence de voyage. » Et là, je me dis « Ah ouais ?» Comment ça se passe ? C'est-à-dire, je cherche sur Internet, je me dis « Ah ouais, peut-être. » J'appelle des agences, mais alors à l'époque, j'y connaissais rien. Je ne savais pas quelles agences appeler. Tu vois, j'appelais, je ne sais pas, Thomas Cook, ça existe encore, Marmara, des trucs comme ça. Et évidemment, aucune d'elles ne voulait travailler avec moi, en fait. Elle travaillait avec des autres entreprises du voyage qui avaient pignon sur rue, des tours opérateurs,
etc. Ouais, j'allais dire des tours opérateurs. Ouais.
Et en fait, moi, ma cache, quoi. Ça ne les intéressait pas. Et donc, dans un premier temps, j'ai laissé tomber cette organisation de voyage de groupe parce que une réglementation qui fait que quand tu organises, quand tu packages hébergement, activité, en fait, ça doit être vendu par une agence. Et parce que c'est la loi, et puis d'un autre côté, ça permet aux voyageurs d'avoir des droits. Et du coup, ne pas le faire, c'est leur enlever, leurs droits. Et je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai décidé de tomber dans un premier temps, et puis j'ai repris un job, CDI. Moi, j'ai jamais eu de problème à trouver un CDI. Alors, ça fait un peu la petite fille un peu pourrigatée.
Non, mais j'ai le même parcours que toi, donc je suis jamais inquiète quand je dois retrouver un job.
Un parcours que... Et du coup, moi, je voulais plus, mais voilà, j'avais quand même besoin de payer mon loyer, etc. Et puis finalement, mon métier de naturopathe, le blog et tout ce que je mettais en place, le métier de travel planner, me permettait pas encore d'en vivre parce que j'étais dispatchée dans plein de directions, parce que j'avais pas forcément de stratégie, etc. Donc, j'ai repris un job en CDI. Et puis, en fait, j'en ai repris un deuxième, bref. Et je me suis dit, non, ce projet est cool. Moi, c'est ce que je veux faire. Je veux être indépendante. Je veux organiser des voyages. Je trouve ça génial parce que je peux aider les gens de cette façon. Donc, je vais organiser des voyages. Je vais créer une agence. Donc, ça, c'était la première étape. Donc, c'était ce qui m'a permis de faire évoluer aussi mon métier de travel planner. Parce qu'on peut en parler un peu plus tard, mais le métier de travel planner, aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas toujours très bien défini. On se dit, c'est que...
Justement, je vais te demander après ta vision. Ouais, tout à fait.
On en parle après.
Ouais.
Il y a plein de façons d'exercer et c'est ça qui est trop cool dans ce métier-là aussi. Et du coup, en parallèle, j'avais aussi développé un réseau avec d'autres professionnels du bien-être, mais aussi des sports outdoor comme des guides de montagne, escalade, etc. Et en fait, on avait la même problématique, même deux problématiques. La première, c'était cette fichue réglementation qui nous imposait d'avoir un statut d'agence de voyage. Mais créer une agence quand on organise 3-4 séjours à l'année, ça n'a ni queue ni tête, c'est pas rentable. Et puis l'autre problématique, c'est de remplir suffisamment les voyages pour que ce soit rentable également, en fait, parce qu'un voyage de groupe à 4 personnes, c'est pas rentable. Et donc là, ça m'a donné l'idée de créer une plateforme, ce qu'on peut appeler une marketplace, hein, un petit peu comme Airbnb, en fait. L'idée, c'était de mettre en relation des personnes à la recherche de voyages ciblés sur le bien-être, et puis des personnes qui en organisaient, en fait. Et donc, j'ai lancé, bonne idée ou pas, les deux projets en même temps. La marketplace qui a du coup ouvert ses portes le 1er décembre 2019. Bah, tu vois, ça fait...
ça va faire, ouais, 4
ans.
Ouais.
Voilà,
ouais,
ça va faire 4 ans demain. On enregistre le podcast le 30 novembre. Et l'agence de voyage, du coup, ça m'a mis quand même pas mal de temps à préparer le lancement parce que c'est assez lourd. Il faut passer plusieurs commissions, etc. Et l'agence de voyage a eu cette immatriculation le 3 ou le 5 mars 2020, soit 15 jours avant le Covid. Enfin, le confinement, plutôt. Oui. Voilà comment je suis arrivée dans le tourisme. Je suis arrivée dans le tourisme avec le Smile.
Il y a eu beaucoup de... En fait, tu as eu beaucoup d'événements qui t'ont permis de confirmer en fait la voie où tu voulais aller finalement, parce que tu vois ta recherche, ta reprise de CDI, etc. Finalement, ça t'a permis de dire non mais en fait c'est pas du tout ça, ça t'a réaligné avec ce que tu avais vraiment envie. Donc le tourisme est vraiment venu te chercher, hein, apparemment.
Et tu sais que c'est un truc encore assez dingue parce que en fait après mon bac plus 2, j'ai passé des concours pour passer, c'est un concours passerelle pour entrer en école de commerce. Et en fait, j'ai été dans 7 écoles. Et en fait, celle que j'ai eue, c'est l'ESC de La Rochelle. Et alors, la spécialité, c'était le tourisme et l'événementiel. Ah, mais j'ai eu 19 à l'oral, tu vois. Et ils me voulaient vraiment dans leur école. Et moi, j'étais là, bah non, en fait, le tourisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je voyais ça comme, tu sais...
c'est fou, hein.
Je n'avais pas envie de travailler dans une agence de voyage, entre guillemets, poussiéreuse, tu sais, à me faire chier à vendre des voyages sur catalogue, quoi. Parce que, en fait, ce que j'avais comme connaissance du tourisme à l'époque, en fait, ça se pratiquait beaucoup comme ça. Hein. Mes parents, parfois, ils bossaient beaucoup, n'avaient pas envie d'organiser leur voyage, puis c'était beaucoup plus compliqué quand j'étais ado, tu vois, parce que j'ai 34 ans, donc... Il y a 20 ans, c'était plus compliqué. On n'avait pas tous ces outils du web pour organiser des voyages. Ouais. Et du coup, en fait, ils allaient dans des agences. Mais en fait, moi, des fois, je les accompagnais. Je me disais, ah, super, ça a l'air chiant comme travail.
Mais en fait, c'est surtout je pense que toi, comme moi, on est plutôt autodidacte ou tu vois, plutôt, peut-être pas autodidacte, mais vraiment indépendante où en fait, tu fais tout en ligne. Enfin, moi, j'aime bien me débrouiller toute seule à chercher, à fouiner, à faire mes recherches. J'ai aucun souci à aller construire moi-même mon voyage. Et il y en a qui ont besoin de se faire accompagner. Tu vois, je pense que c'est une question de profil, en fait, tout simplement.
Ouais, c'est une question de profil, mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, j'aime beaucoup faire les choses par moi-même. Je trouve que c'est super utile pour gagner en autonomie, pour faire des erreurs, parce qu'on apprend de ses erreurs aussi.
Bien sûr.
Mais je trouve que se faire accompagner, tu vois, déléguer, moi, je le fais de plus en plus.
C'est ma prochaine étape, j'aimerais bien.
tu vois, me former, depuis que je suis entrepreneur, je me suis formée, oui, c'est en ligne, mais je me suis formée, je ne sais pas combien de formations j'ai achetées, tu vois. Et puis, c'est pareil, pour déléguer, quand je ne sais pas faire, je préfère déléguer maintenant. Alors, au début, je ne le faisais pas parce que je n'avais pas de sous, en fait. Sauf que ça permet de gagner du temps.
Eh oui,
donc, d'accord. J'ai changé un peu cet état d'esprit. Mais voilà, donc le tourisme est venu me chercher. Donc voilà, j'en suis là.
D'accord, tu as eu plein de signaux et puis ça y est, tu as enfin accepté de les écouter, quoi. Merci.
Ouais, c'est ça. Merci la vie.
Merci à toi. Merci la vie. Du coup, on en vient à la question de fond. Hein. C'est quoi concrètement? Donc, on a bien compris qu'une agence de voyage... tu l'as clairement dit dans ton intro, hein, pour toi, c'est déjà pas la même chose. Visiblement, on arrive sur ta propre définition du métier de travel planner versus l'agence de voyage, par exemple. Comment tu veux présenter le métier de travel planner? Je te laisse...
En fait, pour moi, le métier de travel planner, il est multiple. On entend ou on voit souvent des travel planners qui sont micro-entrepreneurs, donc ils ont un statut de micro-entreprise, qui organisent des voyages 100% sur mesure. Dans toutes les destinations. Donc ça, c'est la chose la plus communément vue et acceptée, on va dire. Sauf que le métier de travel planner, en français, planificateur de voyage, c'est un métier qui est relativement nouveau. Nouveau dans le sens où ce sont des personnes qui ne sont pas issues du tourisme qui exercent ce métier-là. Et clairement, le Covid a contribué à faire
à l'essor.
Évoluer à l'essor pas que pour le métier de trail planner, hein, métier community manager, les métiers du web, hein, customer care manager, etc. Parce que c'est, on le sait, hein, quand même, à un moment donné, on a eu le temps de réfléchir à soi. On s'est dit, bon, est-ce que je garde mon job? Est-ce que je ne me lancerai pas dans une activité indépendante? Surtout que c'est des métiers qui s'adressent beaucoup aux femmes, les femmes qui, comme toi, sont peut-être voilà, maman et qui n'ont plus envie de subir le planning imposé par une entreprise et sur plein de niveaux, etc. Donc, ce sont des métiers, les métiers du web, qui ont quand même le vent en poupe depuis le Covid. Et le métier de travail planeur en fait partie. C'est un métier que tu peux exercer, en fait, où tu veux dans le monde. Moi, c'est ce qui me plaît.
Du moment que tu as Internet et un ordinateur, quoi.
Exactement, une bonne connexion Internet quand même. C'est un métier, moi, qui me tient... Enfin, c'est une façon de travailler qui me tient à cœur. Je ne voyais pas du tout créer une entreprise à un endroit fixe, en fait. Vraiment, c'était... pas ce que je voulais. Donc, pour revenir sur la définition du métier de travel planner, pour moi, c'est un métier qui est multiple, qui permet finalement d'avoir le statut que tu veux. Tu peux le faire en micro-entreprise, en société, tu peux le faire en indépendant, tu peux le faire en freelance, tu peux le faire en tant que salarié, tu peux le faire en tant qu'agent de voyage, parce que finalement, ton métier consiste à organiser des itinéraires de voyage. C'est ça, le métier de travel planner. Après, que tu le fasses à ton compte, pour d'autres personnes, en collaboration, ben ça, c'est des choses différentes. Et après, tu as aussi plein de façons d'organiser des voyages. Tu as plusieurs types de voyages qui existent. Déjà, dans le style, est-ce que tu vas organiser des voyages sportifs, gastronomiques, spirituels, pour des femmes, pour des personnes en situation de handicap? Voilà, tu as le type de voyage que tu vas faire, sur lequel tu peux te spécialiser éventuellement. Et puis après, tu as le type de voyage sur est-ce que c'est du voyage sur mesure? Est-ce que c'est 100% sur mesure? Est-ce que c'est semi-packagé? Est-ce que c'est packagé? Et là, par contre, on rentre dans une réglementation qui est spécifique et il y a pas mal de choses à connaître. Là où certaines personnes se lancent sans forcément connaître la réglementation, ils font certaines erreurs qui peuvent malheureusement leur coûter cher en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour leurs clients.
En gros, clairement, ce que tu es en train de dire, c'est que du moment où tu commences à packager une offre de voyage, tu dois être agent de voyage. Tu dois avoir cet agrément d'agent de voyage.
Le voyage doit être commercialisé par une agence. Donc, soit toi, tu choisis de monter ton agence, soit tu collabores avec une agence et du coup, tu seras freelance pour cette agence. Ça, ça existe depuis des années dans le tourisme. Depuis des années, il y a des agences de voyage ou des tour opérateurs qui choisissent de déléguer leur production à des gens qui sont indépendants, qui sont freelance, qui ont un statut d'auto, de micro-entrepreneur.
Ce sont ces fameux correspondants que tu trouves parfois sur des autres pays ou des choses comme ça. Quand tu...
Par exemple, ou des producteurs de voyage, tu vois, qui sont complètement indépendants. D'ailleurs, il existe des collectifs de freelance dans le tourisme, donc soit avec des producteurs, avec des community managers, avec tous les métiers qui sont importants, qui existent. Il y en a deux aujourd'hui. Je crois que c'est Away We Go et puis DGT, quelque chose comme ça. Et là, en fait, ce sont des gens qui sont freelance et qui travaillent pour des entreprises.
D'accord.
Donc, ça existe depuis longtemps.
Donc, j'ai bien compris maintenant. Et toi, tu disais qu'il existait plusieurs types de voyages, plusieurs thématiques. Toi, tu as choisi la thématique du tourisme durable. Pourquoi ce choix? Tu l'as plus ou moins déjà un peu glissé, c'est-à-dire que tu as vraiment cette valeur-là ancrée en toi, hein, le côté éco-responsable. Du coup... tourisme durable. Est-ce que déjà, je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Est-ce que c'est pas antinomique? Tu vois, on pourrait se dire ça parfois. Moi, je prône le voyager local, mais pour toi, c'est quoi le tourisme durable et pourquoi avoir choisi cette thématique-là?
Alors déjà, la première thématique que j'ai choisie, c'est le tourisme durable, c'est plutôt une valeur que j'apporte dans mon entreprise. C'est le petit truc en plus. Mais la thématique que j'ai choisie, c'est vraiment les voyages outdoor et bien-être.
D'accord.
C'est ça, en fait, le positionnement d'Apitrek. Ok. Spécifiquement. Ensuite, de façon durable, parce que bon, voilà, comme tu le sais, j'ai créé un blog qui s'appelait La Saison en Cuisine, c'est pas pour rien. Ça fait des années maintenant que je m'intéresse à tout ce qui est éco-responsable, que ce soit dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans ma façon de voyager, de me déplacer, de mes choix consommation de façon globale, et que j'en parle autour de moi, que je tanne mes copines à l'époque pour consommer des fruits et saison locaux et de saison. Bref, donc ça me tenait à cœur. Ensuite, effectivement, pour parler du tourisme durable, il y a plein de façons de le faire. Il y a trois piliers sur le tourisme durable. Il y a le fait d'avoir un impact durable sur l'environnement, donc sur l'aspect, du coup, empreinte carbone. Il y a le fait d'avoir un impact durable sur le côté social, humain, donc soit en travaillant avec des locaux, que ça peut être dans nos régions, en France ou dans les autres pays du monde. Tu vois, par exemple, le tourisme humanitaire solidaire, bah, ça fait partie aussi, c'est l'un des piliers du tourisme durable. Et puis, le troisième pilier du tourisme durable, c'est d'avoir un impact positif sur l'économie. Parce que le tourisme a un gros impact économique, que ce soit ici en France.
Bon, alors, ou dans des pays.
Il y a des pays qui dépendent énormément du tourisme.
Bien sûr.
Donc, c'est un impact positif. Et donc, le tourisme durable, c'est tout ça. Et donc, voilà, moi, ce qui me tient à cœur avec Apitrek, c'est d'agir sur ces trois aspects, puisque les voyages que j'ai créés sont, plutôt locaux, parce qu'en fait, avec Apitrek, j'ai plutôt lancé des voyages en France dans un premier temps. Et en fait, j'ai déjà envie de te dire que ça tombait bien, vu qu'on a été confinés et qu'après, c'était Covid. La bonne étoile. Et puis, l'idée, c'était de faire quelque chose comme 60-70% des voyages en France, 20%, 15-20% en Europe et une toute petite part dans le monde, en fait.
D'accord.
Parce que, comme je te l'ai expliqué, les voyages que je créais, ce n'étaient pas des voyages basés, et que je crée toujours, sur la destination, mais plutôt des voyages basés sur l'expérience. Le concept et l'expérience que tu vas vivre et celle que tu vas en retirer. Et c'est toujours comme ça, en fait, que je crée les voyages. Je vais plutôt m'intéresser, tu vois, par exemple, dans les questions que je pose aux voyageurs avant de passer sur l'organisation. C'est quoi l'objectif du voyage? C'est quoi l'intention qu'il y a derrière? C'est quoi votre envie, en fait, profondément, en fait? C'est pas juste de découvrir une destination. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, ça permet de créer un itinéraire de voyage et un voyage, du coup, global qui correspond vraiment aux attentes du voyageur. Et ça, ça fait partie de la différence qu'on peut trouver avec la plus grande majorité des agences de voyage.
D'accord.
Qui, aujourd'hui, attention, les agences de voyage, il y en a certaines qui font du sur-mesure. Les travel planners, il y en a certains qui disent « Ah là là, les agences de voyage, ils ne font pas du sur-mesure, c'est que du packagé, ils se font de l'argent sur votre dos. » Alors ça, c'est un discours que je n'aime absolument pas, que je ne cautionne pas, parce qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est tous des acteurs, des actrices du tourisme, on peut faire les choses de façon positive, et ça, on doit être tous ensemble, mais pas à se tirer la bourre en disant « pas bien », que ce soit les travel planners contre les agences de voyage ou les agences de voyage contre les travel planners. Mais en fait, pour moi, le collectif est super important, et pour ça, il faut être clair sur qu'est-ce que fait l'agence, qu'est-ce que fait le travel planner,
où est la place de chacun. Où est la place de chacun, exactement. Ouais. Mais je crois que c'est pour ça qu'on a
accroché aussi toutes
les deux, parce qu'on a la même vision du travail.
C'est,
c'est
ce que tu fais, toi, tu fais le lien entre les influenceurs et les hébergeurs, ou en tout cas les entreprises
de voyage. Ou les destinations
aussi,
Et pourquoi pas, d'ailleurs, les travel planners, j'allais y venir aussi.
Exactement.
Du coup, j'entends aussi que les travel planners peuvent soit organiser des séjours individuels, mais aussi des séjours de groupe, donc en tout cas.
C'est ça. Alors, des séjours de groupe, il y a soit tu vas organiser un séjour, pour un groupe qui est une famille, un groupe déjà constitué.
Oui.
Et puis dans le tourisme, tu as les groupes non constitués, ce qu'on appelle les GIR, les groupes d'individuels regroupés. Donc là, c'est des personnes qui ne se connaissent pas. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais organiser un séjour, une retraite de yoga, par exemple, il y a une thématique, etc. C'est des personnes qui ne se connaissent pas.
Oui.
Et moi, je dois trouver les personnes pour qu'elles puissent se rencontrer
et
vivre une super expérience dans ce voyage. Et bien, du coup, ça, il y a il y a obligation que le séjour soit commercialisé par une agence.
Okay.
Soit tu as ta propre agence, soit tu trouves une agence qui accepte de collaborer avec
d'accord.
toi. Et encore, il y a un process, des documents, etc. à avoir. Mais oui, tu peux le faire, en fait, mais tu peux le faire en suivant les règles.
Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des travel planners que tu as formés, parce que donc tu es formatrice en travel planner, qui veulent développer, comme toi, finalement, quelque part, le microtourisme, c'est-à-dire mettre en avant vraiment leur région, plus que la France, leur région.
Ouais.
Est-ce que ça existe? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que pourquoi je te pose la question? C'est tout simplement parce que moi, je prône ça. Je prône vraiment le plus possible le voyager local, parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, maintenant, on voyage à 2h30, 3h de chez soi, max. Et de manière courte, alors, je parle en court séjour, évidemment pas pour un mois, mais sur des courts séjours, des courts moyens séjours. Et du coup, je dis toujours aux hébergeurs ou aux destinations que j'accompagne, c'est vraiment de dire aider ces voyageurs à la recherche de break, en fait de city break, en recherche de dépaysement à seulement 2 ou 3 heures de chez eux. Et donc, soyez les ambassadeurs de votre région. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'un travel planner pourrait aussi aider, est-ce qu'il y a une demande sur ce créneau-là, sur le micro-tourisme?
Oui, en fait, les travel planners choisissent leur propre positionnement. En tout cas, dans la méthode de formation que j'ai créée, c'est l'objectif. C'est une méthode qui permet de créer ta propre entreprise et donc, évidemment, le positionnement s'en fait partie. Donc, oui, j'ai des travel planners qui sont spécialisés sur des destinations et spécifiquement sur des régions aussi. Tu vois, il y en a une, sa spécialité, c'est la Bretagne.
Ah,
Et en
j'adore.
fait... ouais, génial. Tu vois, en plus, magnifique. Il y a plein de choses à
Eh
découvrir dans
ouais.
une région. Il y a la destination, mais aussi des acteurs locaux. Il y a des petits hébergeurs,
Bien sûr.
pas forcément voilà des gros hôtels.
Bah, c'est ceux qui nous écoutent.
Ah bah voilà. Coucou tout le monde. Donc voilà, tu vois, il y a tout ça qui est à mettre en avant. Et il n'y a pas un positionnement qui peut être mieux que l'autre. Le positionnement qui est idéal. Et ça, c'est valable pour les travel planners, mais pour n'importe quelle personne qui crée n'importe quel type d'entreprise, c'est celui qui correspond à nos valeurs, à ce qu'on a envie de partager, surtout quand on est solopreneur. Et puis, bon, derrière, il faut qu'il y ait suffisamment de potentiel également. C'est sûr que peut-être se positionner sur la Creuse, eh bien, en fait, il va falloir mettre les bouchées doubles sur le marketing et les actions que tu vas
Ah ouais,
pouvoir proposer.
d'accord.
Mais voilà, il y en a, oui.
Et du coup, ça m'amène une question qu'on n'a pas encore évoquée, c'est quel est le profil de personnes qui font appel à des travel planners? Alors, est-ce qu'il existe c'est plutôt des personnes qui... Enfin, je parle vraiment du profil, pas forcément du pouvoir d'achat, mais du profil. C'est des personnes qui sont débordées ou pas forcément parce qu'elles sont débordées, c'est parce qu'elles ne savent pas comment organiser ou non. Est-ce que c'est plutôt le côté gain de temps qu'elles viennent chercher? C'est le côté je ne sais pas faire du tout? La méconnaissance, c'est quoi le profil en général de ces personnes-là? Et est-ce que c'est des personnes qui ont par exemple 30, 40 ans? Est-ce que c'est plus des femmes, j'imagine, quand même? Voilà, dis-moi, ou peut-être que je me
Oui.
trompe totalement, tu vois, que j'ai plein d'idées reçues.
T'as bien ciblé effectivement le profil principal, c'est une personne qui n'a pas le temps. Et d'ailleurs, une femme qui a entre 30 et 40, 45 ans, qui a des enfants, qui a une charge mentale qui est déjà malheureusement bien importante. Majoritairement dans les familles, dans les couples, c'est plutôt la femme qu'organise les voyages.
Je valide.
Bah d'ailleurs, ouais, tu vois,
Je valide plus. Je plus
dans le
sois.
tourisme, de toute façon, tu vois, hein, c'est
Bien sûr.
majoritairement des nanas en agence.
Bien
Hein.
sûr.
Donc voilà, parce que alors, je sais pas si on a un talent inné pour l'organisation. Bon, culturellement, c'est comme ça. Bref, mais en tout cas, voilà, c'est les femmes qui majoritairement organisent les voyages. Et du coup, il y a une vraie charge mentale sur l'organisation, mais aussi une fois sur place de ah bah en fait, il faut suivre le planning, il faut faire tout ça. Donc, il y a un moment, il y a plein de personnes qui adorent faire ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas forcément le temps. On veut quand même organiser un
Les
voyage qui soit.
vacances. Ouais.
Bah, c'est les vacances, tu vois. Et les
C'est ça.
vacances, ça commence souvent quand on commence à y penser. Ce n'est pas une fois qu'on est sur place.
Oui.
Donc voilà, le profil type, ça va être plus une femme, plutôt mère de famille, entre 30 et 40, 45 ans, qui a. Souvent, voilà, on dit ah oui, CSP+, non, ça veut rien dire.
Oui.
On peut
C'est
très
pour ça que je voulais
bien.
pas que tu me parles de pouvoir d'achat. Je voulais vraiment
Voilà,
ce
non.
profil-là. Ouais.
Parce qu'en fait, tu peux très bien, la femme peut très bien avoir un job où elle est moins rémunérée que son époux, hein, parce que malheureusement, c'est encore trop souvent le cas, pour plein de raisons qu'on ne va pas forcément aborder ici. Mais du coup, bah, monsieur qui a plus de pouvoir d'achat, donc on n'est
C'est le
pas dans la
foyer, voilà,
catégorie
c'est
de
le
la femme, c'est le
foyer.
foyer. Voilà.
Ouais.
Donc c'est important de ne pas faire l'amalgame non plus.
Oui.
Mais voilà, le profil, on va dire démographique, il est comme ça. Après,
Les
sur.
axes
Ouais.
à communiquer, c'est vraiment gagner du temps
Ouais.
et s'adresser plutôt à une clientèle féminine et donc avoir vraiment un discours orienté féminin, quoi.
Et pas que le temps, en fait. Parce que du coup, derrière, quand on est professionnel du tourisme, du voyage, bah, en fait, il y a aussi cette casquette d'expert qu'on peut mettre en avant. Alors, en fait, ça va dépendre du positionnement. Si c'est un travel planner qui dit, bah, non, moi, je vais vous aider à gagner du temps et à trouver les meilleures offres, genre des bons plans voyage, bah, évidemment, là, son intention et ce qu'il va proposer, c'est bah, le meilleur prix. Mais tu peux avoir des travel planners qui vont te permettre de créer des expériences de voyage. Donc, par exemple, moi, en étant spécialisée sur l'outdoor et sur le bien-être, bah, je vais être capable de conseiller des personnes qui veulent, par exemple, s'initier au parapente, à la rando, au bivouac, au kitesurf,
D'accord,
au yoga, etc. Donc, tu as
ouais.
cette expertise-là. Tu peux aussi avoir une expertise sur la destination. Tu
Oui.
vois, dans les travel planners que j'ai formés, je t'ai parlé tout à l'heure
De
d'une
la
personne qui
Bretagne.
est en
Elle est
Bretagne.
experte de la Bretagne.
Elle est experte de la Bretagne, elle y vit. Tu as aussi, tu vois, une personne qui est experte de la Jordanie. Elle vit en Jordanie, qui disait. Tu as une personne qui va lancer, du coup, ses offres de voyage sur l'Afrique du Sud.
Il y a un niveau d'expertise en plus.
Et du coup, toi, en tant que voyageur, tu dis, en fait, c'est quand même peut-être un peu plus rassurant aussi, surtout si tu veux vraiment un itinéraire un peu différent de juste avoir les transports, les hôtels via Booking, tu vois. Tu veux vraiment des expériences un peu plus locales. En fait, tu as besoin... la personne a besoin de connaître la destination.
Sinon,
c'est un peu compliqué. Donc voilà, tout dépend en fait
je comprends. Donc il y a vraiment trois. Mais il y a vraiment cette recherche de aller plus loin que ce que tu peux trouver sur le web en fait.
Ouais. En tout cas, c'est ma façon de créer du voyage et c'est ce que je partage à mes élèves parce que si on veut que le métier de travel planner soit reconnu par les voyageurs et par les autres acteurs du tourisme, il faut avoir la posture d'un professionnel du tourisme. Et un professionnel du tourisme, ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui connaît son métier, voilà, que ce soit sur les bons plans, que ce soit sur la destination, l'activité, etc. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'aimer voyager pour... Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire les choses de façon autodidacte, mais en tout cas, il faut faire les choses bien et il y a plein de choses à connaître.
Et être propre vis-à-vis de la loi. Parlons aussi des séminaires d'aventure que tu proposes. J'ai découvert ça et j'ai trouvé ça génial. Est-ce que c'est, selon toi, une opportunité qui serait originale pour attirer des séminaires au sein d'un hébergement ou d'une destination ? Je m'explique, j'ai énormément dans l'audience des hébergeurs touristiques pour qui la saison... novembre-avril, hein, c'est la période creuse, hormis pour les destinations de montagne comme moi, comme chez moi, où c'est la période la plus importante de l'année. À l'inverse, pour le reste de la France et de ceux qui nous écoutent, on est plutôt sur une période creuse. Et c'est là où ils voudraient attirer parfois des séminaires d'aventure, enfin des séminaires d'entreprise, des workshops, des shootings, tout ce que tu veux. Et du coup, je me dis, mais tiens, les séminaires d'aventure, en fait, ça peut être hyper original comme opportunité pour attirer ce type de voyage. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est en fait un séminaire d'aventure? Et là, on arrivera à se dire, ok, j'arrive à me positionner dedans ou pas.
Ouais, voilà, parce que moi, je parlerais plutôt, tu vois, pour les hébergeurs de séminaires, d'autres produits que... en fait, du voyage individuel. Moi, avec Apitrek, j'organise des séminaires d'aventure. Et ce que j'entends par séminaire d'aventure, c'est des séminaires qui se passent en pleine nature. Donc, en fait, tous les lieux, évidemment, ne vont pas s'y prêter. Tu vois, par exemple, on a organisé au mois de juin un séminaire pour l'entreprise qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Je ne sais pas si je pourrais le citer. Bon, en tout cas, je partage les valeurs, donc tu vois, je trouve ça génial. Ils nous ont contactés parce que justement, ils avaient envie de proposer une expérience différente à leurs équipes qui est raccord avec leurs valeurs. Et donc là, ça s'est passé typiquement dans un refuge de montagne en pleine...
Génial.
Le cadre était magnifique. C'était génial. On leur a fait, voilà, avec des guides de montagne, des activités qui sont en adéquation aussi avec les valeurs de l'entreprise et puis les valeurs du lieu, en fait. Donc là, la destination... était mise en valeur. Après, pour répondre à ta question sur les lieux, donc ouais, effectivement, les ailes de saison, c'est un peu problématique parce qu'on a on a nécessité de remplir ou alors on ferme. Hein, y a des hébergeurs qui décident de fermer.
Oui.
Je pense que l'aspect séminaire, l'aspect aussi de plus en plus, il y a des entreprises qui fonctionnent par en télétravail, que ce soit toute la semaine en total, en full remote pour leurs salariés, soit tu vois, il y a 3-4 jours de télétravail dans la semaine. Donc, pourquoi pas aussi envisager des qu'on appelle ça des
comme des co-living.
Ouais, des co-living, en fait. Ça, ça peut être quelque chose, un axe de développement qui peut être super intéressant. Tu vois, moi, avec mon équipe, maintenant, j'ai une équipe on est trois, donc une petite équipe. Les filles travaillent de chez elles, on se voit une fois dans la semaine. Typiquement, ça peut être quelque chose que j'aimerais faire, en fait, avec elles, tu vois.
D'accord.
Et ça peut être aussi, plein de... En fait, pourquoi pas aussi travailler avec des travel planners qui vont pouvoir... apporter du comment...
Mais c'est là où j'allais en venir, c'est effectivement, est-ce que demain, un travel planner et un hébergeur, moi j'entends que vous pouvez tout à fait travailler ensemble, effectivement. Je te dis ça parce que tu vois, tu parles des voyages, des séjours détox et bien-être, que tu as... détente et bien-être, pardon.
Yes.
Et... non, c'était quoi ? Détente et détox.
Détente et détox.
Et ben ça, typiquement, je connais des hébergeurs qui ont accueilli, parce qu'ils ont des gîtes de grande capacité, et qui ont accueilli des week-ends pour la parentalité, des week-ends pour le bien-être, yoga, des séjours, des week-ends yoga, etc. Et du coup, ça, je me dis, effectivement, je sais qu'ils sont un peu bloqués pour l'organisation. Et du coup, pourquoi pas à ce moment-là travailler avec le travel planner qui, alors souvent, c'est aussi le professionnel en bien-être qui est à l'origine de ça, comme toi à l'époque quand tu étais naturopathe, enfin tu l'es toujours, j'imagine, naturopathe d'ailleurs, en fait.
Oui.
Et voilà, et c'était plutôt le professionnel du bien-être qui organisait le séjour et qui faisait appel à un hébergeur. Mais demain, est-ce que travel planner, c'est un peu pas au milieu? Et j'irais même plus loin, est-ce qu'en fait un hébergeur n'aurait pas intérêt à se former à devenir travel planner?
Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, l'hébergeur peut collaborer avec un travel planner ou avec d'autres professionnels qui organisent des voyages pour venir remplir ses ailes de saison. Il faut faire attention parce que il y a aussi la réglementation qui s'applique. Souvent, je suis très réglementation.
Non, mais t'as raison, parce que c'est un métier
je suis pas
qui
avocate,
l'est.
mais c'est super important parce que le problème, c'est que le jour où, quand tout va bien, ça va, mais quand tout va mal, c'est là où on se dit merde, j'aurais dû y penser. Excusez-moi l'expression. Mais on ne peut pas faire payer d'un côté, on ne peut pas en fait organiser, proposer un voyage packagé du style la parentalité, un week-end pour faire des tentes et détox, peu importe. On fait le programme, on a les intervenants, on a un prix qui est défini à l'avance. Et ça, c'est un forfait de voyage. Et pour ça, il faut que le voyage soit commercialisé par une agence.
Par
C'est
un
ce qui
agent.
fait beaucoup, notamment chez les professeurs de yoga, c'est on fait payer une partie du voyage à l'hébergeur, et puis une partie du voyage
Ah
est
oui.
payée à moi. Et ça, c'est pas légal, en fait. C'est ce qu'on appelle
D'accord.
de la prestation de vente liée. À partir du moment, là, la réglementation, elle est claire, c'est pas flou. À partir du moment où, en fait, tout est décidé en avance, avant que le client lui-même ait pu faire le choix, en fait, c'est un forfait. Donc, pour ça, on peut se rapprocher d'agences de voyage, parce que faut dire les choses clairement, un hébergeur, il a déjà son métier d'hébergeur, il va pas en plus créer une agence de voyage, sauf si c'est son intention de proposer ses services, tu vois,
Ça peut
ça peut
devenir
être une
une
évolution,
dans sa
une autre
stratégie,
activité. Voilà, ça peut faire partie de ses offres, en
ou en
fait,
tout cas, dans ce cas-là, c'est de collaborer, comme tu disais, avec une agence de
avec des
voyage,
agences.
avoir
Et
un
là,
partenariat. Ouais.
c'est ça. Et il y a des agences de voyage, tu vois, qui sont très, ouvertes, en fait, à ça, à ce genre de collaboration. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est que l'agence, elle va gérer tout l'aspect administratif,
Oui.
les gestions des réservations, la gestion des contrats, la gestion, parce qu'il y a des choses, il y a des contrats à avoir, en
Bien
fait.
sûr.
Et
Comme tu dis,
tu
les
vois,
voyageurs ont des droits, donc ils ont besoin
c'est
d'être
ça. Parce que
protégés
qu'est-ce
aussi,
qui
ouais.
se passe? Admettons, il y a un voyage qui est organisé, je ne sais pas, du 10 au 13 février 2024. Et donc, en fait, le client paye une partie l'hébergeur et puis une partie le prof de yoga, on va dire. Et puis, le prof de yoga, il ne peut pas intervenir. Il a le Covid, il est malade, il a je ne sais pas quoi. Comment ça se passe?
Pour l'hébergeur.
Et
Ouais, et
l'hébergeur,
puis
il
pour tout.
rembourse?
Et pour tout,
Et
ouais.
pour le prof de yoga? En fait, il y a un truc qui ne va pas déjà là. Quelles sont les conditions? Quand en
Voilà.
fait, et ça, le fait de passer par une agence, l'agence, en fait, elle a le professionnalisme, elle sait comment organiser des voyages, elle a prévu les aléas, en fait, et elle sait comment gérer tout ça. Et c'est elle qui le fait, c'est son job.
D'accord.
Donc, tu vois, il y a tout ça qui permet d'être beaucoup plus serein, en fait, dans son organisation, de collaborer entre les différents acteurs. On n'est pas les uns contre les autres, on est ensemble, en fait. Enfin, en tout cas, voilà, c'est
Mais
important.
c'est la même vision que j'ai, ouais. Et ça
Ouais.
m'amène à ma question suivante, qui pour moi, c'est justement quelle place tu donnes à la stratégie de réseau, au partenariat, quand tu es travel planner?
Franchement,
C'est
il y a...
presque 100% en fait, finalement, c'est de la
Mais ça
collab.
commence comme ça.
Ouais,
Enfin,
ouais.
pour moi, tu vois, tu peux pas créer une entreprise, une activité indépendante sans penser à ton réseau. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières choses, des premiers exercices qui n'est pas facile, mais que je demande de faire à mes élèves dans la formation, tu vois. C'est travailler votre réseau. Et le réseau, c'est le réseau personnel, le réseau des autres professionnels du tourisme, autres professionnels qui peuvent aussi t'aider dans ton activité, la com, etc. Mais tu vois, dans le tourisme, évidemment, je pense on a plus à gagner à collaborer plutôt que d'être dans la guéguerre les uns
Mais
contre les
tellement,
autres.
mais tellement.
Même entre travel planners, tu vois. Enfin, moi, aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'ai l'activité travel planner avec Apitrek. J'ai aussi une formation, mais pas que. En fait, c'est un organisme de formation que j'ai créé en 2023. C'est un
Certifié
organisme de
Calliope,
formation,
d'ailleurs.
voilà, professionnel, certifié
Bravo.
Calliope. Et je propose pas qu'une formation pour créer son entreprise de travel planner, mais aussi des formations pour les acteurs du tourisme. En
J'ai
fait, c'est des
vu.
formations pour entreprendre dans le tourisme.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, ça n'existe pas forcément. Et là, l'idée, c'est de tout structurer parce que moi, à l'époque, ça m'a manqué. À
Ouais.
l'époque, j'avais quand même un bac plus 5, j'étais formée en marketing, en développement commercial, en communication, j'avais pas mal d'expériences qui me permettaient d'avoir cet aspect-là déjà pour moi. Le côté tourisme, je ne l'avais pas. Et en fait, aujourd'hui, ça permet à... Voilà, l'idée, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent créer une entreprise en tourisme.
Tu vois ? Ou justement, prendre... J'ai vu que tu proposais des parcours de formation, c'est-à-dire prendre un module, deux ou trois modules, enfin, quelques briques pour justement aller vers un peu plus de professionnalisation ou se diversifier un petit peu plus. Parce que honnêtement, même en préparant l'épisode, je n'avais pas imaginé, je m'étais dit, bon, bah, ok, un hébergeur a tout intérêt, s'il le souhaite, à chercher à travailler avec des travel planners au niveau local, s'il développe le voyage local, ou travel planner centré sur les voyages en France, ou pourquoi pas sur des spécificités comme toi, outdoor, bien-être, si c'est la clientèle que je vise aussi parce que j'ai l'hébergement qui s'y prête bien. Du coup, est-ce que j'avais pensé collaboration, mais finalement, je me dis même pourquoi pas aller même jusqu'à se former au métier de travel planner, même quand on est un office de tourisme, même quand on est. Parce que l'office de tourisme commercialise déjà des voyages, mais pourquoi pas aussi, tu vois, demain aller encore un peu plus loin sur l'organisation de séjours un peu plus différents, quoi.
Complètement. Et
vas-y, et dis-moi.
J'ai justement des personnes qui sont une hébergeur du coup qui a choisi d'intégrer la formation, une autre qui est en cours d'intégration, qui justement a envie d'apporter cette corde à son arc.
Ah, j'adorerais l'interviewer.
Sa propre activité.
Tu me donneras ses coordonnées, ouais, j'adorerais l'interviewer. Elle est en cours de formation ?
Ouais, donc bon, dans quelques temps,
quelques
mais
mois,
ouais,
tu me donneras ses contacts, ouais.
Ça peut être, tu vois, j'avais échangé aussi avec une personne qui est en office de tourisme, qui a envie un petit peu de changer, des personnes qui travaillent en agence de voyage, qui ont envie de faire les choses un peu différemment. Donc, en fait, il y a tout profil, tu vois, qui peuvent finalement devenir travel planner. Tu peux le faire en complément de ton job, d'ailleurs, c'est
tout à fait
conseillé, tu vois, au début. Donc, oui, tu peux, en tant qu'hébergeur, choisir de te former pour... ajouter une corde à ton arc, ou ne serait-ce que pour savoir quelle est la méthode aussi pour pouvoir travailler avec des travel planners par la suite.
Et ou au moins, comme tu disais, connaître la réglementation aussi. Si par exemple, je suis amenée à organiser justement des week-ends thématiques, des week-ends packagés, comme tu l'as dit, c'est pas si bien fait légalement, donc peut-être qu'au moins avoir cette connaissance de la réglementation pour être dans les clous, quoi.
Ouais.
Peut-être que juste au moins pour ça.
Il n'y a pas que la réglementation, tu vois, il y a vraiment tout le reste, c'est-à-dire la méthode, les process, comment tu vas définir un tarif, quels sont les documents que tu dois avoir, comment tu vas collaborer avec une agence.
Et gagner en crédibilité aussi, du coup.
Ouais,
tu vois,
c'est exactement. Ouais,
d'accord. Eh bien, écoute, c'est génial parce que j'avais, tu vois, je percevais, c'est pour ça que je t'ai contacté, je percevais qu'il y avait quelque chose, tu vois, de corrélé, clairement. De toute façon, en travel planner, organisation de séjour, il y a forcément un lien avec les hébergements. Il y a aussi un lien avec les influenceurs, parce que justement, une de mes questions que je me posais, c'est est-ce que demain, des travel planners aussi ont envie de faire connaître des destinations, des séjours qu'ils proposent au travers d'influenceurs pour justement faire décupler la notoriété. Du coup, est-ce que justement, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Est-ce que pourtant un travel planner a tout intérêt, pourquoi pas, de développer des collaborations avec des influenceurs du voyage?
Ouais, complètement. En fait, je pense que même, en fait, finalement, n'importe quel entrepreneur devrait, enfin, peut avoir
travailler
un intérêt
sur
à travailler avec des influenceurs. Bah oui, et franchement, c'est pas toujours facile déjà parce que t'as plein de choses à gérer quand t'es entrepreneur. Tu sais pas trop en fait comment les contacter, quelles conditions leur proposer. Voilà, c'est pas forcément toujours évident. Donc je pense que en tant que travel planner, oui, évidemment, il y a un intérêt que ce soit pour le local, mais tu vois aussi pour tout type de voyage finalement. Donc ouais, complètement. Complètement, je trouve que ta solution est bien, du coup, pour ça.
Tu parles de l'annuaire des influenceurs.
Oui,
et exactement. Comme tu le sais, je vais te proposer une collaboration pour l'ensemble de tes apprenants, pour tes formations,
yes,
pour qu'ils puissent bénéficier d'un tarif privilégié sur l'annuaire. Et bien évidemment, tu es le bienvenu aussi sur l'annuaire avec grand plaisir. En tout cas, j'ai adoré cette interview parce que j'ai vu, tu vois, vraiment toutes ces opportunités. Pendant qu'on discutait, tu vois, ça faisait ting, 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 ting dans ma tête parce que vraiment, j'imaginais tout ce qui était possible, tu vois, le champ des possibles. Et parce que je suis vraiment persuadée, je suis convaincue, c'est ancré en moi qu'effectivement, comme toi, il faut collaborer. Eh bien, écoute, Tu veux nous dire comment on peut te retrouver peut-être au niveau, quels sont tes liens, que je mettrai bien évidemment dans les notes de cet épisode, mais quelles peuvent être les formations phares que tu proposes et peut-être les prochaines dates, parce qu'il me semble que c'est des sessions de formation. Donc voilà, si tu veux nous dire un petit mot de conclusion, où est-ce qu'on peut te contacter de préférence? Est-ce que tu es plutôt Instagram? Est-ce que tu es plutôt LinkedIn? Est-ce que tu es plutôt mail? Voilà.
Yes. Alors, déjà, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de collaborer avec les différents acteurs du tourisme. Je pense que le travel planner peut vraiment aider parce que des fois, en tant qu'hébergeur, on n'a pas forcément le temps et plein de choses à faire
C'est
que je
pour
ne
ça.
soupçonne même pas puisque je ne suis jamais, j'ai jamais, je mets juste mon appart en Airbnb et c'est déjà bien compliqué. Donc voilà, le travel planner peut vraiment aider les hébergeurs à justement uniformiser un peu tout ça et apporter la valeur ajoutée au voyage de leurs clients. Sinon, pour me retrouver, eh bien, en fait, bon, Apitrek, hein, sur Instagram, le site internet également. Là, c'est vraiment pour la partie voyage. Ensuite, pour tout ce qui est lié à la formation, vous pouvez aussi aller sur le site apitrek.fr, rubrique formation. Et là, vous avez des informations sur les formations que je propose. Et du coup, je dispatche le côté voyage de formation parce que sinon, ça part un peu dans tous les sens. Donc, sur Instagram, pour la partie travel planner, il y a un compte qui s'appelle Devenir Travel Planner. Du coup, tout simplement, bah, tu pourras peut-être mettre les
Je
liens.
mettrai tous les liens, bien évidemment.
Yes. Et donc, pour en revenir à ta dernière question sur les sessions, en fait, pour la formation Créer son entreprise de travel planner, ça fonctionne de deux façons différentes. Soit il y a des dates fixes pour des rentrées collectives où là vous commencez avec d'autres personnes, donc c'est cool parce que il y a plus de contenu, il y a vraiment des cours en visio, il y a voilà, plus d'éléments et plus d'interactions, plus de challenges aussi. Mais sinon, il y a aussi possibilité d'intégrer la formation en individuel,
À tout
du
moment, du
coup, à
coup.
tout moment. Il y a
D'accord.
toujours, voilà, il y a toujours possibilité de poser ces questions à n'importe quel moment pendant la formation et même après. Vous rejoignez quand même la communauté de travel planner, il y a toujours du suivi personnalisé, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a deux façons de le faire. Et donc, pour les autres formations, eh bien, en fait, je vous invite à suivre Devenir Travel Planner, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et si jamais il y a des demandes spécifiques, je fais aussi de la formation sur mesure en tant qu'organisme de formation en plus Calliope. Du coup, ça permet aussi d'accompagner de façon personnalisée les demandes voilà, spécifiques.
Génial. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'ai appris beaucoup. Je perçois maintenant plein de, comme je te disais, plein de partenariats possibles, de collaborations possibles. Et j'espère vraiment accueillir. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient commencé à s'intéresser à l'annuaire des influenceurs. Donc, je pressens que les travel planners vont venir un peu sourcer quelques influenceurs et pourquoi pas développer un peu cet écosystème. Et moi, j'ai vraiment plaisir à accueillir les travel planners dans cet écosystème et j'espère vraiment qu'il y aura de belles collaborations à venir. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Ludivine. Merci pour ta générosité dans tes propos. Et puis, j'ai hâte de te suivre pour la suite.
Merci à toi,
Et
Yann.
surtout, j'ai hâte d'écouter tes prochains épisodes parce que j'ai rattrapé mon retard parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur Nouvelles Impulsions. Je mettrai aussi les liens parce que j'aime beaucoup. Et ça permet de poursuivre cet échange qu'on est en train de faire pour aller plus loin sur le métier de travel planner. Voilà. Écouter un peu le podcast Nouvelles Impulsions, ça donnera justement d'autres idées, d'autres ramifications derrière sur qu'est-ce qui est possible de faire. Merci à toi, les divines. Je te dis à très bientôt.
Merci Yann, à bientôt. Salut.
Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, que vous en avez appris beaucoup sur le métier de travel planner. Et pourquoi pas, j'espère que ça vous a donné quelques idées, quelques opportunités à développer, quelques partenariats à développer avec justement des travel planners qui pourraient organiser et packager donc des séjours chez vous, que ce soit pour des séminaires, que ce soit pour des voyages de groupe, que ce soit vraiment pour des séjours thématiques. N'hésitez pas du coup à vous tourner vers des travel planners, pourquoi pas ceux qui se sont formés auprès de Ludivine. Et puis même pour aller plus loin, pourquoi pas vous-même devenir demain travel planner pour organiser et commercialiser aussi des séjours. Et n'oubliez pas que pour les commercialiser, vous devez donc vous associer avec des agences de voyage. Pour rappel, les offices de tourisme qui ont une centrale de réservation peuvent faire justement ce travail de commercialisation de vos séjours. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens utiles dans cette description d'épisode. En tout cas, n'hésitez pas à contacter directement Ludivine si vous avez des questions. Je vous mettrai bien évidemment les liens vers son compte Instagram et son site internet si vous avez la moindre question. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez le partager à des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui seraient ravies de découvrir le métier de travel planner. Et puis, si vous voulez aller plus loin pour soutenir le podcast, vous pouvez me laisser une jolie note 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, notamment Apple Podcasts ou Spotify. En attendant, je vous retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !